Maître Jean-Pierre Mignard est notre invité. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Avocat pénaliste réputé proche d'Emmanuel Macron, vous avez présidé le comité d'éthique d'En Marche pendant la campagne. Comment l'avez-vous trouvé jeudi soir, le président de la République, à la hauteur des enjeux ou comme certains vous vous êtes dit tout ça pour ça, comme par exemple les sociologues Pinson-Charlot?
Non, je pense que c'est un nouveau discours. Hein. Ou plus exactement, c'est une position qui revient aux fondamentaux de sa campagne présidentielle. Je crois que Emmanuel Macron a pris acte de l'ampleur de la crise sociale et puis du morcellement de la société, de sa fragmentation, des difficultés qu'avaient les Français à se retrouver ensemble. Voilà, peut-être sur ce point, il l'avait perçu au moment de sa campagne. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait amené à le soutenir. Et je ne désavoue pas mon soutien, mais c'est un soutien libre. C'est-à-dire, quand je suis d'accord, je suis d'accord. Quand je suis pas d'accord, je le dis. Mais je le soutiens. Voilà. Sois bien clair. Par contre, je pense que avait-il sous-estimé les faiblesses, les déchirures de la société française. Ça, c'est indéniable. Et toute sa politique pendant ces deux premières années a été une politique où, incontestablement, il a voulu tenir son programme. Fallait peut-être d'ailleurs tenir compte aussi des électeurs du second tour, qui avaient voté pour lui pour empêcher les nationalistes de gagner. Et qui n'était pas forcément d'accord avec son programme du premier tour. Donc sur ce point, il y a eu sans doute un manque en termes de conviction, d'adhésion. Première erreur. Deuxième erreur, peut-être une sous-estimation des faiblesses encore plus importantes de la société française. Donc, il n'a pas théorisé le retour à ses positions premières.
Non, il s'est même défendu d'avoir fait fausse route.
Oui, c'est un peu son caractère, si je peux me permettre. C'est un tempérament, Emmanuel Macron. Hein. Cela dit, quand on lit bien avec attention ce qu'il a dit, d'abord tant sur la forme que sur le fond, on constate quand même des choix. L'âge légal de la retraite à 62 ans, la prise en considération du CARE, qui fut d'ailleurs une grande campagne de Martine Aubry, qui était...
Le CARE, C-A-R-E, hein, le soin.
Voilà, le soin. Prendre soin des personnes, présenté comme étant une nécessité pour les personnes restant à domicile dans une population qui a évidemment vieilli, bien, et tant mieux. Troisièmement, les services publics. C'est-à-dire, enfin, nous avons abandonné cette espèce de principe dogmatique issu tout droit du néolibéralisme, consistant à dire il faut réduire le nombre des fonctionnaires avec des chiffres magiques. Le sien était 120 000 fonctionnaires. François Fillon, c'était 500 000. Là, il a dit on fera ce qu'on pourra, mais ce n'est plus un objectif premier en tant que tel. L'important, c'est le redéploiement. Beaucoup de
début d'une ère nouvelle.
Oui, c'est-à-dire plus exactement retour à sa campagne présidentielle dans ce qu'elle tenait. Elle visait à tenir les deux bouts, c'est-à-dire comment relancer le pays, comment relancer du dynamisme, c'est un peu comme lève-toi et marche. Et de l'autre côté, comment soigner, comment réparer. On a eu son intervention sur la cordée. Bon, très bien. Les premiers, les derniers, très bien. Moi, je considère que dans une société, ce n'est pas une entreprise. Faut qu'on soit bien d'accord sur ce point. Et donc, je pense que le degré de civilisation d'une société, quelle qu'elle soit, c'est bien sûr qu'elle ait des talents, qu'elle ait des entrepreneurs, qu'elle ait des grands scientifiques, qu'elle veuille être première, c'est très bien. Mais à la fin des fins, le jugement, ce sera comment avez-vous traité les plus fragiles d'entre vous? C'est ça le degré d'une civilisation. Et si on veut juger une démocratie à la qualité des valeurs qu'elle prétend défendre ou incarner, c'est ça. Et les plus fragiles, comment les avez-vous traités ?
Jean-Pierre Mignard, ça fait quelque temps que vous lui reprochez, même si c'est encore de votre façon, puisque vous le soutenez, vous continuez de le soutenir, oui. Vous le dites, hein, mais que vous lui reprochez, disons, de n'avancer que sur sa jambe droite. Est-ce que là, vous dites, effectivement, il a saisi l'occasion, avec ce discours de jeudi soir, de retrouver son équilibre et de marcher à nouveau sur ses deux jambes ?
C'est ce que je crois. Alors, il manque quelque chose, hein ?
Moi, qu'est-ce qui manque alors ?
Cet homme n'est pas un tyran, c'est pas un homme, c'est un homme intelligent et sensible, qu'on le veuille ou non. Il a quand même compris. On voit bien quand même son intervention, peut-être un peu embarrassée d'ailleurs sur la question des gilets jaunes, dont il reconnaît l'importance que ce mouvement a pu avoir dans la prise de conscience générale. Et c'est vrai, j'ai toujours reproché, moi je l'ai dit, j'ai tweeté, des fois je fais des conneries dans mes tweets, on est bien d'accord, mais j'ai tweeté pour dire que ce mouvement n'avait pas été pris en considération. D'ailleurs, on prend en considération qu'il avait manqué de considération de notre part, parce que je pense qu'il révélait beaucoup de choses. Il l'a salué au début, il faut tenir les deux bouts, donc il va falloir réparer. La réparation sera longue, mais elle est absolument fondamentale. Et donc je pense qu'il faudrait aussi sur ce mouvement, et ça s'adresse autant aux gens du mouvement, arrêtons les violences, mais arrêtons aussi les mots. Les mots sont quelquefois violents. Les mots qui ont quelquefois été utilisés contre les gilets jaunes, je m'en suis toujours séparé parce que je considère. J'ai bien vu les gens qui manifestaient. C'est pas des hordes hitlériennes, c'est pas la peste brune, c'est pas des black blocs.
Il y en a parmi eux. Hein,
mais bien sûr, mais qui
se sont exprimés,
mais qui parasitent.
Comme vous le savez.
Mais bien sûr, qu'ici ou là, les ultras de droite, les ultras de gauche, je sais même pas, ils sont ultras de quoi, ils sont ultras d'ultra, viennent parasiter, tenter de dévoyer le mouvement, chercher la violence. Ça, c'est un vieux truc, vous savez, Lénine disait que quand il y avait des morts dans une manifestation, c'était très bien, et que si la police tsariste avait été très dure, il y avait des morts, et que ça permettait aux gens de comprendre ce qu'était la vraie nature, le vrai visage du pouvoir d'en face. Donc je sais très bien que cette stratégie de la violence des ultras vise y compris peut-être à exposer les gilets jaunes à la violence et à l'action des forces de l'ordre, qui elles-mêmes vont surréagir compte tenu de la violence des mots et des situations. On cherche le martyr pour exaspérer la violence. Donc voilà. Donc il faut faire attention parce que c'est un mouvement profondément humain, profondément social, profondément populaire, qui a été pris en otage à la fois par la violence des ultras et par les mots que nous avons tenus à son égard qui n'étaient pas justes.
Et vous pensez que c'est une réponse qui a été faite jeudi soir à cette crise sociale des Gilets jaunes que vous évoquez, Jean-Pierre Mignard?
Je pense qu'il y a tenté.
C'était plus large que ça. Hein.
Non,
on le voit bien, les Gilets jaunes se disent déçus, même s'ils n'attendaient pas grand-chose.
Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est impossible, c'est une crise longue. Il faudra, comme on le dit dans notre communiqué du Labi Perrion, il faudra du temps pour que cette plaie se referme. Simplement, la question des services publics, notamment, avec les maisons de services publics, enfin, on redéploie le nombre des fonctionnaires, mais on ne décide plus de manière dogmatique d'en réduire le nombre. C'est des vraies réponses, ça, aux personnes. Il va falloir tenir compte, effectivement, de la question des carburants, mais allons-nous rentrer, enfin, dans la grande transition éco-climatique?
En termes de démocratie, plus de délibération, mais refus.
Mais ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça, alors que la vie locale, que la vie communale, que la vie même départementale ou régionale soit accompagnée d'initiatives qui soient prises notamment par voie de pétition, qui devront être effectivement très strictes, on devra veiller à ce que chacun se soit bien engagé, c'est évidemment un très grand progrès. Que peu à peu l'ancien CESE soit chargé avec des citoyens qui soient tirés au sort, c'est bien. D'ailleurs, ce serait bien qu'en même temps, d'ailleurs, les jurys d'assises, on continue de les maintenir, parce qu'on ne va pas mettre des citoyens tirés au sort, tant mieux pour la délibération politique, et les réduire dans les décisions de justice. Je me permets, entre-temps, de faire effectivement ce type de remarque. Bon, tout ça est un vrai progrès. Le référendum d'initiative partagée, où on réduit ce chiffre absurde de 4,5 millions pour revenir à 1 million de citoyens, plus des parlementaires, mais tout ça va effectivement dans le bon sens.
Bon, Jean-Pierre Mignard, vous n'irez pas manifester aujourd'hui à l'appel de la CGT, de la France Insoumise et des Gilets jaunes pour dénoncer la politique du gouvernement?
Non, mais c'est leur droit. À partir du moment où il n'y a pas de violence, moi je pense que dans une société, c'est très bien que le droit de manifester existe, c'est bien qu'ils manifestent. Une société, c'est vivant, ça respire.
Mais pourtant, il y a quelques semaines, oui, si je ne m'abuse, vous étiez pour l'interdiction des manifestations du samedi à cause des violences.
Je pense qu'à un moment donné, oui, parce qu'il y a un problème d'ordre public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'une manifestation, on sait qu'elle va être prise au piège des ultras, dans ces conditions, on protège les gens.
Mais qu'est-ce qu'on fait de la liberté fondamentale de manifester? Le grand défenseur des libertés publiques.
Oui, je vais vous dire ce que disent les libertés publiques dans ce cas. C'est-à-dire que le Conseil d'État a toujours jugé, grand défenseur des droits et des libertés, que lorsque les pouvoirs publics considéraient qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer la protection des personnes, ni l'ordre public, alors dans ces conditions, ils étaient fondés à interdire la manifestation sur le lieu où elle devait se tenir et qu'elle devait se tenir ailleurs. J'ai toujours pensé que sur les Champs-Élysées, c'était une absurdité parce que on exaspérait tout ce qui pouvait s'y passer. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi à l'origine on avait autorisé les Champs-Élysées. Je me doutais de ce qui allait se passer. Donc il faut choisir le lieu approprié et quand effectivement les personnes vont se trouver face à de la répression, il y a de la répression policière, c'est indéniable. S'il y a tellement de gens mutilés, etc., on est là pour protéger tout le monde. On est là pour protéger les policiers et on est là pour protéger les manifestants. Il faut faire en sorte que les lieux soient les plus idoines pour assurer la sécurité physique des personnes. C'est ce que dit le Conseil d'État. Hein.
Mais une manifestation comme celle de cet après-midi devrait se tenir à Paris ou à Strasbourg ou à Toulouse ou ailleurs.
Dès lors que c'est pas sur certains sites, on va pas leur interdire, etc. Et puis, écoutez, les dernières fois, on a quand même beaucoup exagéré les risques. Alors j'espère qu'on continuera dans l'exagération et qu'il n'y aura pas tant de risques que ça. C'est plutôt bien d'ailleurs qu'un grand syndicat ouvrier comme la CGT, qui a ses choix, manifeste avec les Gilets jaunes parce que lui, il a une grande tradition d'organisation et souhaitons que cette culture de l'organisation, qui est très typique du mouvement ouvrier, elle se transfère aux Gilets jaunes qui ne sont pas dans la tradition du mouvement ouvrier, qui sont plus dans la tradition du mouvement chartiste anglais du 19e siècle, qui fut en effet extrêmement violent, très long, mais qui, d'ailleurs, qui était composé de le même type de personnes, ça durait près de 20 ans, hein, quand même. Le chartisme anglais, c'est sans doute la référence pour comprendre ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes.
En vous entendant, Jean-Pierre Mignard, ce matin, dire finalement le plus grand bien des interventions et des annonces faites par le président de la République jeudi soir, je me demande si votre laboratoire Hyperion que vous venez de créer avec le député La République En Marche Aurélien Taché a encore une raison d'être, puisque ce laboratoire, vous l'avez voulu plutôt de tendance de gauche, c'est votre famille politique, c'est là d'où vous venez, au sein de la majorité, pour que justement cette jambe gauche revive au sein de la majorité. Mais finalement, là, tout va bien.
Bah écoutez, là, la jambe gauche est repartie.
On ferme le laboratoire Hyperion.
Ah bah, plus que jamais, on l'ouvre. Puisque d'ailleurs, nous l'avons créé avant. Mais enfin, je ne veux pas avoir l'immodestie de penser que c'est notre création qui a permis la marche en avant. J'aurais pas cette sottise et c'est pas mon habitude. Cela dit, attendez, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Nous n'avons pas de doctrine. Et je pense qu'il faut un corps de doctrine, un corps de référence. Que devient le monde? Nous ne sommes plus dans la première mondialisation, nous sommes dans la deuxième mondialisation, la recartélisation du monde en empire, c'est-à-dire la brutalité, la puissance et la guerre commerciale. Que va faire l'Europe et que va faire la France pour s'en défendre? Comment se défendre sans se refermer? Et je pense sur ce point évidemment à la question des migrants, etc. Car je ne voudrais pas effectivement que dans ces périodes où on tente de se ressaisir, ce soit les migrants ou ce soit des religions nouvelles qui en fassent les frais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, cette politique sociale doit être effectivement maintenue fermement dans le cadre de la transition éco-climatique. Il faut que notre société, aujourd'hui, se construise sur la question écologique et climatique.
Grande absente du discours de jeudi soir.
Non, mais ça, parce que ça aussi, mais c'est à la société d'agir. Nous ne sommes pas des grenouilles qui demandons un roi et qui attendons tout d'un président. Je pense que la société civile, les médias, les intellectuels, tout le monde doit essayer de retrouver de la force, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde tend plutôt à se refermer, à se protéger. Les tendances réactionnaires dans nos sociétés et en Europe sont considérables. J'entendais votre confrère tout à l'heure évoquer le risque en Espagne d'avoir le parti post-franquiste obtenir 10, 12 ou plus. Ça en dit long. Ouais, ça, c'est les vrais dangers. Donc je pense même pas que ce soit En Marche seul qui puisse s'en sortir, même avec son allié le Modem. Il faut effectivement que la droite libérale européenne, les sociodémocrates, les écologistes au niveau européen créent une sorte de grand pacte démocratique. Chacun sur ses positions aura ses positions, mais il faut que sur l'essentiel, ce grand éventail de forces prenne effectivement ses responsabilités. Après tout, lorsqu'on nous a créé le Conseil national de résistance, c'était bien ça. Ça allait des dissidents de l'Action française jusqu'au Parti communiste.
Vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Vous êtes entendu au sein d'En Marche?
Écoutez, on est quand même déjà un certain nombre à Hyperion. Et puis je vais vous dire, qui pensait en 1937, en 1938, et mon analogie commence et s'arrête là, que nous aurions besoin de coalitions de cette nature? Au niveau du Parlement européen, il est évident qu'il faudra des sociodémocrates jusqu'à la droite libérale européenne. Ce que je souhaite, c'est qu'En Marche soit l'aiguillon de ce grand rassemblement. Ceux qui inventent le pacte, pas toujours se dire « nous sommes les meilleurs », ça c'est absurde, c'est un discours puéril. Au contraire, on doit être les artisans de l'unité sur l'essentiel. Or, c'est l'essentiel qui est menacé, au niveau mondial, comme au niveau de nos politiques intérieures. Regardez la montée partout des identités nationales, des mouvements identitaires, des grands remplacements et autres sortes de choses qui fabriquent des guerres civiles dans les têtes.
Restez avec nous, il est 8h30, Jean-Pierre Mignard, on vous retrouve juste après la revue de presse de Natacha Triou, 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Bouvet.
Chère Natacha, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors beaucoup des journaux de ce matin continuent de commenter les annonces présidentielles de jeudi soir. Petit tour d'horizon des éditorialistes de la presse nationale et régionale.
Ce qui fait grincer le Figaro ce matin, c'est la dépense publique. Pour Yves Tréhard, nombre de nos difficultés viennent de là, de cette incapacité à dépenser moins mais mieux. En somme, une tradition française. Selon Jean-Michel Brutonnier dans La Voix du Nord, quand le président dit vouloir reconstruire l'art d'être français, c'est aux conservateurs qu'il s'adresse. Pour l'éditorialiste, voici une opération de séduction auprès des électeurs de droite. A l'inverse, pour Xavier Brouet du Républicain Lorrain, Macron maintient son cap, mais il marque une inflexion sociale. Surtout pour régler l'ardoise, il lorgne sur les niches fiscales des entreprises. Mais ce qui ressort le plus, ce sont les insuffisances des mesures annoncées. Elles ne répondent pas aux attentes des Gilets jaunes. Jean-Marcel Bourguereau, de la République des Pyrénées, regrette le flou de son engagement sur l'écologie. Si Charente Libre le voit en patron paternaliste, si l'éclair des Pyrénées voit Jupiter toujours, pour Le Monde, la posture présidentielle a changé. Citoyens, élus et partenaires sociaux sont désormais impliqués. Changement de méthode, le chef d'État a choisi de déléguer. Emmanuel Macron a mesuré le risque de concentrer sur sa personne la totalité du pouvoir.
Par ailleurs, cette semaine, Hebdo et Revue se sont intéressés à l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, mais aussi à ses hommes d'influence.
Ah, et on commence avec l'enquête dans Vanity Fair. Macron et Sarkozy, les dessous d'une étrange amitié. Le magazine rapporte que cet hiver, l'ancien président lui suggérait des noms pour les grands ministères. Malgré ses turpitudes judiciaires, je cite, « Sarkozy reste la figure la plus populaire de la droite ». Conseiller de l'ombre, stratégie politique, diviser la droite pour mieux régner, le doute plane sur les raisons de leur proximité. Pour Le Point, cette semaine, le nouveau cerveau d'Emmanuel Macron, c'est Jean-Michel Blanquer. Dans son long entretien, le ministre de l'Éducation dit vouloir renouer avec une méritocratie réelle. Selon Le Point, ce sont ses idées à lui qui ont influencé la sortie de crise des Gilets jaunes. Le ministre confirme. L'éducation est le thème qui est à la base d'une réflexion et d'une politique sur l'égalité des chances. De facto, cela me positionne en première ligne. Le politiste Vincent Martini, interviewé dans Society, lui pense différemment. Selon lui, le président est à l'image des autres chefs d'État du monde. Qu'ils soient populistes ou libéraux, tous incarnent la figure du chef qui décide seul. L'hyper-présidentialisation a affaibli le pouvoir du Premier ministre. Il écrit « Qu'est-ce qui fait la crise de la démocratie ? La solitude du prince qui gouverne sans contre-pouvoir, sans collectif organisé. »
Vincent Martini qui sera l'invité de la Grande Table la semaine prochaine. Juste une réaction à ce sujet sur l'hyper-présidentialisation. Jean-Pierre Mignard.
Elle est dans les gènes de la Ve République. Voilà. Ça, franchement, bien alors, quel est le fondateur de la Ve République ? C'est le général de Gaulle, personnage iconique, mérité, sans doute, pour bien des aspects. Mais c'est une constitution qui, n'oublions pas, est née dans la guerre civile, au bord de la guerre civile, les putschs militaires, la fin de la guerre coloniale, des régimes qui étaient sur le point de tomber. Il faut bien voir que lorsque le général de Gaulle est ramené aux affaires, l'armée bouge. On dit d'ailleurs que même à Rambouillet, l'armée est prête. Des parlementaires se réfugient à l'Assemblée nationale. C'est dans ces conditions-là quand même.
Et c'est un ancien gaulliste qui parle.
Oui, bien sûr. Mais
c'était jeune gaulliste dans ces années-là.
Jeune gaulliste.
Alors, on célèbre d'ailleurs le 50e anniversaire de sa démission demain.
Et heureusement que le général fut républicain. Nous aurions pu avoir Salazar. C'était le choix d'ailleurs qui était posé à la France à l'époque. C'était Salazar ou De Gaulle. Enfin, effectivement, dans tous les cas, De Gaulle. Nous n'avons pas beaucoup progressé depuis, même si la société a énormément avancé. Général, d'ailleurs, est parti à la suite d'un référendum où il l'avait perdu. Nous avons eu mai 68, la plus grande grève générale de l'histoire du monde, quand même. Ça, c'est quand même ouvrière, c'est quand même très important. Et on a une société qui s'est beaucoup, beaucoup libérée, qui s'est quelquefois individualisée, qui est quelquefois devenue égoïste. L'individualisme, je suis pour. Je suis sur ce point un démocrate libéral. Mais la contrepartie, c'est l'altruisme. Nous avons perdu en altruisme ce que nous avons gagné en individualisme. Or, je pense que l'altruisme, c'est fondamental. Et la délibération citoyenne. Alors là, il y a quelques progrès. Moi, j'aurais été, par exemple, favorable à ce qu'il y ait des assemblées citoyennes dans toutes les régions qui soient systématiquement pressenties pour donner leur avis avant une délibération et que leur avis soit discuté.
Bon, ça n'a pas été retenu.
Voilà. Mais non, mais les sociétés, ça progresse de manière chaotique, mais il le faut. Mais si les citoyens ne sont pas plus responsables, si on ne donne pas plus de responsabilités, si les gens ne sortent pas de leur cocon, c'est-à-dire s'ils ne sont pas plus rassurés, parce que les gens ne sortent de leur cocon que lorsqu'ils sont rassurés, nous aurons effectivement toujours des systèmes hyper-présidentiels, les grenouilles qui demandent un roi, La Fontaine a tout écrit là-dessus.
Allez, on termine votre revue de presse, Natacha. À quelques semaines des scrutins des européennes, deux dossiers s'intéressent à l'Europe. Le magazine économique Capital, tout d'abord, titré « L'Europe nous irrite, mais que serait-on sans elle ?»
Oui, elle n'est source d'espoir que pour 29% des Français. Pourtant, l'Union est la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Capital, le magazine, donc, détricote quelques préjugés. Sans l'Union européenne, nos entreprises seraient beaucoup moins performantes, nous dit André-Luc Molinier du MEDEF. Ou comment le libre-échange et la monnaie unique sont des bénédictions pour l'économie. Dans son nouveau numéro, Philosophie Magazine s'intéresse, lui, à l'esprit européen. Dans ce dossier très riche, là aussi, on fait le constat d'un désaveu. Tout se passe comme si l'UE apparaissait au peuple comme un projet évidé, un dispositif administratif, un puissant levier d'action pour les lobbies, mais pas comme une force authentique politique. La construction européenne souffre d'un déficit symbolique. Dans un premier temps, un dépenseur tente de répondre à une question, la question, qu'est-ce qu'être européen ? Pour la philosophe Barbara Cassin, ce qui est très marqué en Europe, c'est le multilinguisme. Ce sont des différences culturelles creusées comme telles et sans cesse réinventées. C'est pourquoi, malgré la mondialisation, l'Europe résiste à l'hégémonie du global English. Et si précisément l'esprit européen se caractérisait par l'art d'entretenir la contradiction ? Chaque fois qu'elle a produit une idéologie, l'Union a aussitôt construit et diffusé son contrepoint. Catholicisme contre protestantisme, lumière contre romantisme, libéralisme contre marxisme. Alors pour finir, je cite, « Les prochaines élections européennes risquent d'aboutir à un paradoxe. Un Parlement européen où siégeront des députés anti-européens. Cette crise politique actuelle n'est peut-être qu'un nouvel avatar de cet esprit de perpétuelle autocontradiction, et si c'était aussi le gage d'une certaine vitalité. »
Une grande question, Jean-Pierre Mignard.
Oui.
Une grande question, quand même. Et si c'était le gage d'une certaine vitalité, cet esprit de contradiction européen ?
Ah, mais j'en suis convaincu. Je suis convaincu que c'est majeur. Bah, le jour où il y aura plus de contradictions, ça veut dire qu'on sera dans une espèce de société lyophilisée ou une espèce de où des groupes plus ou moins occultes décideraient pour tous. Alors là, les théoriciens du complot auraient raison. Non, la contradiction, elle est majeure. Il faut qu'elle soit organisée, il faut qu'elle soit documentée, il faut qu'elle soit cultivée, pour qu'elle soit productive, pour qu'elle soit fertile. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais c'est au cœur de tout, et c'est vrai d'ailleurs sur le plurilinguisme, c'est ce qui nous permet effectivement de faire vivre nos langues respectives. Et d'ailleurs, je pense qu'il est bon que le français soit en compétition amicale avec l'anglais, c'est fondamental. On prédit aux Français, notamment avec l'Afrique francophone et la francophonie, d'avoir le rang peut-être de deuxième langue du monde. Mais ça veut dire aussi, deuxième langue du monde, ça veut dire que ça nous donne des obligations vis-à-vis de l'ensemble du monde francophone, et notamment vis-à-vis des Africains, vis-à-vis des Maghrébins. C'est-à-dire que il faudrait que les Français comprennent que avoir une langue et le statut d'une grande langue, ça donne des obligations, ça fournit des obligations de nature politique pour le pays berceau, politique, économique, sociale, culturelle, sanitaire, humanitaire, tout ce que l'on veut. Et je voudrais sur ce point que les Français comprennent bien que tous ceux qui pointent du doigt les Arabes, les Africains, sont des gens qui tuent leur langue, qui n'aiment pas leur pays. Parce que aimer son pays, c'est aimer que sa langue soit parlée par d'autres, que d'autres fassent à ce pays l'honneur de parler sa langue. Les Africains, les Arabes qui parlent notre langue, font l'honneur de parler notre langue. Et dans ces conditions, eh bien l'honneur, ça se salue. Ça veut dire des partenariats, ça veut dire le sens de l'égalité, ça veut dire le sens de l'ouverture. Et quand il y a des gens qui se noient, ça veut dire le sens de l'hospitalité. Voilà ce que signifie la langue.
Jean-Pierre Mignard est notre invité, on l'a entendu. Jean-Pierre Mignard est un avocat pénaliste, fervent défenseur des libertés publiques, avocat militant, vous le diriez comme ça ?
Quand j'ai dans ma vie, franchement, je suis des fois franchement planté dans certaines causes. Mais enfin, dans l'ensemble, je pense que le jour du jugement dernier, parce que je suis un peu chrétien, parce que j'étais co-directeur de la rédaction du Courrier chrétien, peut-être que la balance du mieux pèsera un peu plus que la balance du contre, mais il n'y a jamais de balance absolument pour ou contre. Oui. Par moment, on est militant, on défend des causes. C'est-à-dire que derrière même des plaidoiries de principe, on met des causes, on met son histoire, sa sensibilité, on met ses choix. Alors bien sûr, quand on est un avocat, un juriste ou un professeur de droit, on argumente à travers les moyens qui sont celui de notre langue, c'est-à-dire de la langue du droit, de la langue des codes. Et oui, bien sûr, oui, c'est pas scandaleux d'être militant. Militant.
On posait la question à propos des journalistes.
Miles,
avant le journal.
Le miles, comme on dit en latin, le soldat. Oui, bien sûr, oui. Alors les journalistes, Les journalistes, ce ne sont pas non plus des personnes ou femmes qui sont absents de préoccupations de droit, etc. Puis attendez, je vais vous dire une chose. Quand on est journaliste, à moins de vouloir se faire harakiri, on aime la liberté de l'information, c'est-à-dire les devoirs que l'on a vis-à-vis des lecteurs. Et le devoir qu'on a vis-à-vis des lecteurs, c'est de leur dire les choses, c'est de leur redonner de l'information, c'est de les rendre majeurs pour qu'ils forment leurs opinions, qu'ils fassent leur choix. Les journalistes sont comme les professeurs, comme les instituteurs, ce sont, pour moi, c'est un même type de métier. C'est-à-dire que ce sont en effet des piliers de la démocratie, comme les instituteurs, comme les professeurs, on dit plus instituteurs, comme les professeurs, comme les maîtres. Voilà, ça leur donne des obligations déontologiques à leur tour. Car lorsqu'on a un devoir de transmission vis-à-vis de ses concitoyens, vis-à-vis des lecteurs, des auditeurs, des internautes, eh bien, on a des devoirs. Mais c'est évidemment essentiel. Je vous signale d'ailleurs que les grands textes européens que nous avons signés après la Deuxième Guerre mondiale font du droit à l'information un des piliers capitaux de système démocratique.
Et vous avez d'ailleurs, Jean-Pierre Mignard, longtemps été l'un des avocats du site Mediapart.
Oui.
On parlait donc de cette affaire Gaspard Glance, journaliste de rue, interpellé samedi dernier et mis en garde à vue, qui est convoqué au tribunal en octobre prochain. On parlait également de la convocation de 3 journalistes, 2 de Disclose, 1 de Radio France, par la DGSI pour avoir révélé l'usage d'armes françaises au Yémen. On pourrait aussi évoquer d'ailleurs l'attaque contre Mediapart de Nathalie Loiseau, qui a parlé d'une connerie de jeunesse en parlant de ses accointances avec l'extrême droite, révélée donc par Mediapart la semaine dernière. Mais est-ce que vous diriez, vous, qu'on assiste à un recul de cette liberté de la presse aujourd'hui ?
La liberté de la presse, c'est comme un feu de cheminée, on l'entretient. Sinon, on a la braise et la braise s'éteint. Toute liberté, de tout temps, a besoin d'être revisitée et revivifiée. La liberté, elle recule, par définition, si elle n'avance pas. On est toujours choqué par la liberté dont on use vis-à-vis de soi. Je ne connais pas d'humain ou de pouvoir qui aime tant une liberté lorsqu'elle s'exerce sur le plan critique. Il faut le savoir, et donc il faut être extrêmement vigilant, parce que c'est comme la mer. La mer avance et elle recule. Et quelquefois, d'ailleurs, elle peut reculer plus qu'elle n'avance. C'est exactement
ce que vous voulez dire.
Ben, c'est ça, la liberté de la presse. Elle peut effectivement...
Dans quel moment ? Dans un moment de recul, alors ? De reflux de la mer ?
À chaque fois qu'il y a des moments d'exaspération sociale, de critique et de tension sociale, la liberté devient un ingrédient dont on pense qu'on en fait un trop grand usage, notamment les pouvoirs. Les pouvoirs n'aiment pas, quels qu'ils soient, de tout temps, n'aiment pas qu'on fasse un trop grand usage de la liberté. Lorsque nous sommes partants calmes, que le lac est plat, oui. Mais lorsque la tempête se lève, on pense que la liberté doit être limitée. D'ailleurs, en temps de guerre, on limite la liberté de la presse.
C'est vrai aussi de toutes les libertés publiques. Vous pensez, comme le défenseur des droits dans son dernier rapport, qu'on assiste à une régression continue des droits et libertés fondamentales en France ?
Pas seulement en France.
Ah là, il lui parlait de la France.
Mais le défenseur des droits, c'est un homme.
Et puis, d'ailleurs, vous citiez le Conseil national de la Résistance. On pourrait aussi citer le nouveau président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a rendu son rapport cette semaine.
Jean-Marie
Delarue. Non, elle vient d'être remplacée par Jean-Marie Delarue. Et Jean-Marie Delarue dit que l'esprit qui a présidé aux droits de l'homme de 1945 s'efface.
Mais pourquoi ? Parce que dans des situations de crise économique et sociale, la tendance est toujours de considérer, la tendance générale, et pas seulement française, est de considérer le droit comme étant un luxe, les libertés comme étant un facteur de désordre. Je vous signale d'ailleurs, je vous rappelle un rapport très intéressant de 1975 de messieurs Crozier, Huntington, Watawaki, qui expliquait que le surenchérissement des prix du pétrole allait faire en sorte que l'État-providence n'allait plus historiquement pouvoir remplir son rôle, que l'égalité poussée jusqu'au bout pouvait être un désordre, que la démocratie allait devenir de plus en plus ingérable, et que notamment, il fallait remplacer la distribution par la sécurité, que ce que ne pouvait plus offrir en prestations sociales, c'est-à-dire effectivement en moyens financiers, mis dans la machine sociale, il fallait le remplacer par la sécurité. Souvenez-vous qu'à l'époque, il y a eu les premières lois sécurité-liberté, et que depuis, nous n'avons jamais cessé de faire des lois sécuritaires. C'est-à-dire que plus une société se trouve en difficulté économique, plus de manière insidieuse, elle se met quelquefois en état de guerre et elle peut considérer que les libertés, les critiques, les droits sont effectivement un facteur de désordre supplémentaire. C'est pourquoi, pour moi, la question de la liberté, c'est pas la liberté en tant que statut et totem, c'est est-ce qu'il y a des institutions, des personnes, des juges, des défenseurs de droits, des présidents de commission qui ont le droit de le dire et dont on prend en considération ce qu'ils disent. Pour moi, le thermomètre, il est là.
En même temps, selon ce même rapport de la CNCDH cette semaine, malgré une hausse des actes violents en 2018 et notamment les actes racistes, on assiste à une lente décroissance de ces mêmes opinions racistes et à une augmentation de la tolérance. Est-ce que cela vous surprend, Jean-Pierre Mignard ?
Non, parce que je vois par exemple sur la question, je pense qu'il y a une bien plus grande considération du droit des femmes, notamment par exemple à une somme d'agressions invraisemblables qui était là aussi cachée, etc., qui était notamment la question du harcèlement. Je pense notamment aux droits des homosexuels, des gays, des femmes lesbiennes. Enfin, c'est pas parfait parce qu'il y a beaucoup d'agressions de toute nature. Mais aujourd'hui, la société considère clairement que la défense du droit de son orientation sexuelle, la défense l'homophobie est un délit. Bref, c'est quand même des progrès considérables. Il reste néanmoins que je pense qu'il y a un mal sournois, insidieux, bien plus grave qui est en train de pointer son nez, qui est effectivement la montée du sentiment identitaire, dont la théorie du grand remplacement est un aspect très dangereux et qui peut se révéler très nocif à terme.
Et sur lequel vous êtes en train d'écrire.
Oui, je suis en train d'écrire. Je vois notamment que l'extrême droite post-franquiste en Espagne reprend effectivement ce type de thématique. Il faut faire extrêmement attention. Est-ce que nous ne préparons pas les cerveaux à une guerre civile dans les années qui viennent? Car il y aura des migrations et qu'est-ce que nous allons faire? On gère avec l'Afrique? En fraternité et en partenariat linguistique, ou est-ce que nous mettons des mitrailleuses lourdes ou la flotte pour bloquer la venue des migrants?
Alors je voulais qu'on termine par une note d'espoir que vous aviez ouverte d'ailleurs en disant la liberté, ça va, ça vient, mais ça va revenir.
Non, ça se défend.
Que l'augmentation de la tolérance nous laissait penser que la société allait
ça
mieux.
Ça se défend.
Et là, voilà, boum, la guerre civile.
Ça veut dire qu'il faut être vigilant.
Bon, alors restons vigilants.